qu'il soit vraiment obligé de démissionner, il faudrait deux choses, je pense. Il faudrait d'abord que son ancien conseiller en communication et l'ancien rédacteur en chef du News of the World, donc le fameux Andy Coulson, que ça soit prouvé que Coulson a véritablement commis des crimes. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que Cameron le savait quand il l'a recruté comme conseiller en communication. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, Cameron est sans doute blessé, il est affaibli, mais tant qu'il peut continuer de s'activer un peu sur tous les fronts, de prendre des mesures, de commander des enquêtes officielles et parlementaires, etc., je pense qu'il continuera de s'en sortir. Mais il est vrai, cela dit, que cela commence à prendre de plus en plus les allures d'une affaire d'État.
Alors justement, Cameron a dit, je crois, qu'il devait s'exprimer mercredi devant le Parlement. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il dise?
Je pense qu'il va dire, il va répéter que personnellement, il a toujours accepté la version de Coulson, donc à dire que Coulson a toujours prétendu qu'il ne savait rien de ses pratiques douteuses, voire illégales, au sein de son journal. Cameron, il va dire qu'il lui a cru, qu'il voudrait juste donner à un homme sa deuxième chance, et que Coulson a très bien fait son travail. Ce qui commence à nous choquer, nous, les Britanniques, maintenant, ce n'est pas tellement les écoutes même. Je pense que la plupart des Anglais ont toujours compris que le journalisme façon tabloïde était une affaire un peu sale, un peu douteuse, un peu qui avait des pratiques pas très claires, pas très nettes, mais c'était comme ça. Parfois, il y avait des excès vraiment inexcusables et dégoûtants, comme on vient de voir avec les écoutes téléphoniques, mais que tout cela, ça faisait qu'en quelque part partie de la tradition de la presse en grand Bretagne, et que c'était en quelque partie le prix à payer pour une presse véritablement libre, une presse qui pourrait mener campagne, qui pourrait critiquer ouvertement, qui pourrait provoquer la chute d'un gouvernement ou la démission d'un ministre. Donc une presse libre. Donc je pense que c'est pour ça qu'on dit que c'est en train de devenir potentiellement une affaire d'État. Ce n'est plus restreint aux médias, aux histoires de journaux, de pratiques journalistiques, etc. C'est une question d'influence et de potentiellement de corruption au plus haut niveau.
Est-ce que selon vous, cette affaire peut être une manière de faire de la politique autrement, c'est-à-dire plus de transparence, peut-être plus de séparation entre les différents pouvoirs?
Je pense qu'il y aura très certainement plus de transparence au niveau du Premier ministre, au niveau du Parlement. Ce que je crains, et c'est ce que je pense beaucoup d'Anglais, non seulement ceux qui travaillent dans les médias, craignent, c'est que le Parlement, qui est toujours très très remonté contre la presse à cause de l'affaire des frais de l'année dernière, je ne sais pas si vous souvenez, mais cette affaire où le Daily Telegraph a révélé les frais tout à fait exorbitants et aussi très souvent illégaux des députés. S'ils veulent faire de ce scandale une occasion de mettre un sorte de cadre légal autour de la presse, ça va changer vraiment profondément la démocratie britannique. Nous, on n'a jamais, la presse britannique n'a jamais été, il y a évidemment des lois qui interdisent certaines activités, dont des écoutes téléphoniques, mais la presse en Grande-Bretagne, elle n'a jamais été sujet à un vrai cadre législatif. Si le gouvernement veut vraiment légiférer, ça va profondément changer la relation entre la presse et la politique, et quelque part un contre-pouvoir très très important et nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie sera touché.